fait ici la deuxième partie de cette prédication que nous avions commencée ensemble, où j'avais parlé de l'importance de voir clair. De voir clair pour pouvoir vraiment vivre en sa présence, vivre une authentique vie chrétienne, un salut authentique, une authentique libération. Et on va parler aujourd'hui du besoin qu'on a de prier, d'un besoin profond qu'on a de prier, sans quoi on ne peut pas et voir clair et vivre cette vie authentique. On a absolument besoin de prier. Et on va faire certainement en deux fois, parce qu'on a beaucoup, beaucoup besoin de prier. On fera une première partie où je vais parler ce matin de notre nature de péché qui nous empêche de vivre libre. Et on fera une deuxième fois, et j'intégrerai dedans ces deux aides dont j'avais parlé la dernière fois pour nous aider à prier. Et on parlera de ce monde et de cette terre qui veut nous tenir esclaves, liés, alors qu'on est fait pour le ciel. On est fait pour la liberté et on est fait pour sa gloire. Et vous voyez, ce psaume 18, il veut tout dire dans ce cœur de David. On a là le cantique d'un homme nouveau qui peut dire qu'il aime l'Éternel, qu'il est vraiment sa force. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. C'est des choses qui sont faites dans son cœur. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alors, il peut s'écrier, loué soit l'Éternel. Et David, il dit que les liens de la mort l'avaient environné, que les torrents de la destruction l'avaient épouvanté, les liens du séjour des morts l'avaient enlacé, les filets de la mort l'avaient surpris. C'est dans sa détresse, reconnaissant sa détresse, qu'il a invoqué le Seigneur. Et c'est le cœur de ce que je veux vous partager ce matin. C'est qu'on a besoin, non pas pour nous décourager, mais pour nous encourager à vivre quelque chose d'authentique. On a besoin de reconnaître ce séjour des morts qui veut nous enlacer, ces filets de la mort, ces liens de la mort, ces torrents de destruction qui luttent dans nos âmes, à chacun de nous, à tout être humain qui est de cette race d'Adam et qui a chuté. J'aimerais très rapidement, sans trop commenter, qu'on lise deux passages ensemble pour nous rafraîchir la mémoire sur ce que l'on avait partagé la dernière fois. Vous pouvez prendre avec moi Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, et on lit à partir du verset 17. Éphésiens chapitre 4, verset 17. L'apôtre Paul dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. » Il le dit et il le déclare. Lui qui a été mis à part pour être apôtre de Jésus. « Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » On s'arrête là pour vous rappeler ce passage clé que j'avais donné la dernière fois. « Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » On a besoin de voir clair, pour que le me dit, Romains 12, vous pouvez lire les versets 1 et 2, d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Alors, l'apôtre dit et déclare dans le Seigneur qu'on ne doit plus marcher comme ça, selon la vanité de nos pensées, avec une intelligence obscurcie, parce que ça fait qu'on est étranger à la vie de Dieu. Et on a besoin de voir clair pour dépouiller ses pensées, ces sentiments, ce corps du péché qui est en nous, afin de vraiment pouvoir se joindre à David en proclamant ce cantique. Et on peut lire, on saute juste deux versets pour aller plus vite, les versets 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, c'est-à-dire de marcher comme ça un peu à tâtons, dans la vanité de nos pensées, avec une intelligence obscurcie. Vous n'êtes pas appelé à être étranger à la vie de Dieu, c'est ce qu'il dit. Vous êtes appelé à ne pas être des étrangers, mais à être ses vivants, à être ses enfants légitimes, à vivre une vie chrétienne authentique. si du moins vous l'avez entendu, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je laisserai plus méditer sur ces versets, et on va prendre 2 Corinthiens 5 maintenant. Une deuxième parole qui nous rappelle cette clarté que Dieu veut donner à nos yeux pour que nous ne nous endormions pas. 2 Corinthiens 5, versets 14 à 18. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, c'est-à-dire qui sont sauvés en Jésus par sa mort, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si on a connu Christ comme un Dieu extérieur qui n'a pas fait son ouvrage dans nos vies, Paul dit, si tu vis mon évangile, comme il le dit à d'autres endroits, tu as pu peut-être connaître Christ dans la chair, comme une religion, comme une séduction, comme une sorte de tiédeur. Mais si l'amour de Christ te presse, l'amour de Dieu vient dans ton cœur et qui fait son œuvre, tu connaîtras plus Jésus-Christ, le Messie, dans la chair. Et il dit aussi, nous ne connaissons personne selon la chair. Si tu avais des relations charnelles avec des gens, si tu es vraiment recréé, c'est plus ton vieil homme qui partage des choses selon la chair avec les gens, avec ce monde. Tu connais plus personne selon la chair. Ça ne veut pas dire que tu dois couper avec toutes tes connaissances, mais c'est ton être nouveau qui va connaître ces personnes, les voir d'une manière nouvelle. Parce que tu verras, soit qu'elles connaissent Christ dans la chair, soit qu'elles ne le connaissent pas, mais si tes yeux s'ouvrent et que tu ne vois plus Christ dans la chair, mais Christ dans l'esprit, dans la puissance de l'évangile de son Fils, et que tu nais réellement de nouveau, tu ne connaîtras plus personne selon la chair. Tu verras la perdition de ce monde. Les deux premiers commandements qui se retrouvent là, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Quelqu'un qui connaît Dieu comme ça, il est né de nouveau. Et il ne connaît pas Dieu selon la chair. Et pareillement, si quelqu'un aime Dieu de cette manière, il aime son prochain comme lui-même. Il n'y a pas de plus grand amour, comme l'a dit Jésus, de donner sa vie pour ses amis. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va avoir les yeux de Jésus et qui va ne plus vivre pour lui, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour lui et pour toutes ses connaissances. Si quelqu'un, verset 17, est en Christ, il est une nouvelle création. C'est si clair. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. On va parler de la prière aujourd'hui parce que si on veut vivre ça, c'est obligé qu'on prie. Si on ne veut pas être dans le sommeil de la mort, c'est obligé qu'on prie. C'est capital qu'on mette en place dans notre vie quotidienne une sérieuse vie de prière. Et c'est de ça dont je vais parler ce matin. Le besoin absolu qu'on a de prier. Parce que c'est vrai que, après avoir prêché la dernière fois, il aurait fallu prêcher le soir venant Parce que on a besoin, comment je vais vivre ce qui a été prêché? En priant, en te mettant à l'œuvre dans la prière. Et c'est ce qu'on va partager ce matin. Et on peut prendre Marc chapitre 1, verset 35-36. Marc 1, verset 35 et 36. On ne va pas lire les versets d'avant, mais Jésus, au verset 32, voyez, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Donc, il a guéri des gens, il a libéré des gens de puissance, de ténèbres. Donc, c'était après le soleil, il y avait toute la ville. Donc, vous pensez bien qu'il ne s'est pas couché à 21h30. Et on lit au verset 35, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. » Et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. Tous te cherchent. » Alors vous voyez, chers bien-aimés, que si Jésus lui-même, le Fils du Dieu vivant, rempli du Saint-Esprit, comme aucun de nous n'a encore été rempli, je le pense, quand bien même il dit, « Je vous... » J'ai donné la gloire que le Père m'a donnée, et qu'on serait censé faire encore des plus grandes choses que lui. Je crois que c'est rarement le cas, parce que on l'a pas entendu, comme on a lu tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 4, conformément à la vérité qui est en Jésus. Et c'est tout là le problème. Mais ce Jésus, Fils de Dieu, qui est notre exemple, la perfection sur la terre, il a marché parfaitement. Il n'y avait pas un seul péché en lui. Eh bien, ce Jésus, il se lève avant tout le monde et il part dans un lieu désert. Et si tout le monde le cherchait, c'est que tout le monde dormait quand Jésus s'est levé. Alors si Jésus, sur la terre, avait tant besoin de prier, ô combien nous en avons besoin. Et on en a besoin, j'aimerais pas trop m'étendre là-dessus, mais quand même dire deux mots. C'est le sujet pour vivre une vie nouvelle, pour voir clair et vivre une vie authentiquement nouvelle, on a besoin. Et sans m'étendre trop sur le sujet, parce que c'est une autre prédication, on en a besoin aussi pour notre génération, frères et sœurs. On en a besoin parce que quand on connaît Christ selon la chair, il n'y a pas de problème. On marche comme ça, on va faire nos courses, on prend le bus, on fait tout ce qu'on veut dans ce monde et puis... il n'y a rien qui nous paraît anormal. Mais quand on connaît Christ selon l'Esprit, eh bien, on se rend compte que tous ces gens, ils vont en enfer. Ils vont en enfer. Et on a besoin de prier pour avoir la clarté, non seulement par rapport à notre propre vie, mais par rapport à ce monde. Je crois que ça va ensemble. Et quand bien même on parle par rapport à nous, parce que je crois que c'est la première chose à dire, parce que si nous-mêmes on dort, comment voir que les autres dorment? Il faut se réveiller, il faut se lever. Alors, tu dors pas. C'est une image que je donne dans la chair avec les autres, comme on l'a lu tout à l'heure dans cette deuxième lettre aux Corinthiens. Mais tu es réveillé. Alors tu connais plus les gens selon la chair, tu dors plus comme les autres. Alors tu vois. Une des preuves, si je puis dire, qu'on est endormi dans le sommeil de la mort et que le séjour des morts nous a enlacés, c'est qu'on vit tranquille. On n'a pas d'angoisse de l'âme. On se pavane même dans notre vie chrétienne alors que les gens meurent autour de nous. Vous savez, dans l'église aujourd'hui, on arrive pour beaucoup d'églises à avoir plus d'enterrements que de baptêmes. Mais ça choque personne. C'est la preuve qu'on est complètement endormi. J'en parlais l'autre jour à quelqu'un lui disant, si tu es en train de te noyer et que tu sors de l'eau, tous les gens qui se noient, est-ce qu'ils ne vont pas t'interpeller? Est-ce que tu ne vas pas crier pour que quelqu'un les sauve? Ou te jeter toi-même à l'eau, combien même tu ne saurais pas nager, tu ne supporterais pas. C'est la preuve qu'on a encore la tête sous l'eau, frères et sœurs. Alors, on va parler de notre nature de péché. On a une nature de péché, pourtant on est fait pour naître de nouveau. Il est la force qui nous sauve de cette nature de péché. Comme le dit le psaume 51, David dit, je suis né dans l'iniquité, conçu dans le péché. C'est une chose qu'on a absolument besoin de reconnaître, vous voyez. Je n'ai pas prié au début de cette prédication parce que la présence du Seigneur est ici. Mais ce que j'avais à cœur de prier, si j'avais prié, c'était de demander dans sa grâce à notre Dieu qui est si miséricordieux, plein d'amour et de bonté, de nous guérir de notre péché. C'est ce qu'il y avait dans mon cœur. De nous guérir de notre péché, de nous guérir de notre cécité. Si parfois je pars fort, vous m'en excuserez, c'est pas moi qui veux vous taper avec un marteau, c'est que mon cœur brûle de l'amour de Dieu. Mais le cœur de Dieu, il est amour, il est miséricorde, et il veut nous guérir de notre péché, on en a besoin. Parce que comme on va le voir, comme le dit Paul, si on reconnaît en vérité, on est misérable, et on a absolument besoin de lui. Comme l'a fait David, on a besoin de crier à lui, que de son palais, il entende. Donc, c'est notre nature. L'Épître aux Éphésiens nous dit aussi que nous étions par nature des enfants de la colère. C'est notre nature. Alors, c'est naturel. Si notre nature, c'est une nature de péché, et le péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Le péché, c'est manquer le but, c'est manquer la communion, l'union avec Dieu. Donc, si on a une nature de péché contraire à ça, c'est normal que spontanément, nos appétits n'aillent pas vers Dieu. Nos désirs n'aillent pas vers Dieu. Nos pensées n'aillent pas vers Dieu. Et ça, il faut absolument le reconnaître. C'est une vérité. Et on a besoin de la reconnaître, on va le voir tout à l'heure, sinon on n'arrivera pas à avancer sérieusement avec le Seigneur. Au psaume 39, David dit aussi, « Il n'y a rien, rien de saint dans ma chair. » C'est terrible. Il n'y a rien de saint dans ma chair. Alors comment on pourrait vouloir adorer Dieu ou proclamer notre salut dans la chair? Il n'y a rien de saint dans ma chair. Mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Vous voyez l'image? Mes iniquités, mon péché s'élèvent au-dessus de ma tête. L'iniquité, dans le mot, il y a cette notion d'être tordu. Vous voyez, je suis tordu, je n'arrive pas à être clair, à être droit. On l'a lu tout à l'heure, la justice et la droiture sont la base de son trône. Mais non, je vois que je ne suis pas clair, je suis tordu. Et ça s'élève au-dessus de ma tête, c'est plus fort que moi, voilà ce qu'il veut dire. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Vous voyez, David, il reconnaissait. Paul aussi reconnaissait. Vous pouvez prendre avec moi Romains 7. Romains 7, et on va lire les versets 21 à 25. Vous pourrez lire à partir du verset 14 si vous voulez méditer, mais pour gagner du temps, on va prendre le verset 21. « Je trouve donc en moi cette loi. » Paul dit, je vois qu'il y a une loi en moi. « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » On parle de la prière. Quand je veux prier, quand je veux m'engager avec Dieu, je vois que le mal, il y a des choses qui sont attachées à moi. C'est en moi. Il dit, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » S'il y a une nature de péché en nous, si nous sommes chrétiens, on a cette vie de Christ en nous. Dans l'homme intérieur, on a le désir d'aimer Dieu, le désir de marcher avec Dieu. Du point de vue de l'homme intérieur, on aime la loi de Dieu, l'enseignement vivant de Dieu, la Torah de Dieu. On l'aime. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Là, il parle du vrai entendement, de celui qui aime Dieu, de celui qui est né de nouveau. Je constate... Je vois dans mes membres, et il la voit, vous voyez, donne à mes yeux la clarté, comme Paul. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il faut qu'on arrive à la voir, comme Paul la voyait, cette force, cette loi en nous qui nous rend captif. Mais Jésus, il est notre libérateur. Quand il a lu ce rouleau d'Ésaïe, il a proclamé la délivrance aux captifs. Misérable que je suis, il dit Paul, voyez, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? qui me délivrera de ce corps de mort? Ainsi donc, moi-même, je suis, par l'entendement, esclave de la loi de Dieu, et je suis, par la chair, esclave du péché. On a besoin de faire ce constat, bien-aimé, qu'on est malheureux, que c'est la vérité. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, mais il va nous libérer dans la vérité. On l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens 4. Une justice et une sainteté, cet homme nouveau, que produit la vérité. Et donc, on doit voir clair. Je crois qu'on a besoin, pour commencer toute vie chrétienne, ou pour recommencer toute vie chrétienne authentique, non selon la chair, mais selon l'esprit, de connaître Christ comme on l'a lu, non selon la chair, mais selon l'esprit, qu'on ne veut plus le connaître désormais selon la chair, on a besoin de reconnaître honnêtement notre manque d'amour pour la prière, notre manque d'entrain, notre manque de persévérance pour la prière, parce qu'elle est essentielle. Je vous matraquerai avec ça pendant toute cette prédication. Et si on a des réticences pour la prière, eh bien c'est que cette force du péché en nous, elle a bien sûr des réticences contre Dieu. Voilà pourquoi je vous disais la dernière fois, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et on doit remettre Dieu au centre et au cœur de notre vie. Il faut qu'on soit convaincu de péché dans ce domaine particulier de la prière. Non seulement d'être convaincu de notre nature de péché, de reconnaître que c'est vrai et de le voir clair, mais de voir que le moyen d'en sortir, c'est la prière. Pour être fortifié de la force même de Dieu, qu'il soit cette force qui nous sauve, ce libérateur, ce bouclier, qu'on puisse rentrer dans une dimension de foi, dans l'œuvre rédemptrice de notre Sauveur, qui va nous faire vraiment marcher en homme nouveau. On a besoin de prier pour ça, sinon ce n'est pas possible. On a besoin d'être convaincu de péché en particulier, donc dans la prière. Et comprenez une chose, d'être convaincu de péché, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bien. Jésus a dit que le Saint-Esprit, il viendrait pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Souvent, on invoque le Saint-Esprit, mais le rôle premier du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché. Mais alors, une fois qu'on est convaincu de péché, on a besoin de repentance. Et de nouveau, la repentance, c'est bon. Jésus a dit, repentez-vous. Jésus, il est la bonté même, n'est-ce pas ? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voyez comme c'est positif. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il est tout proche, mais pour ça, tu dois être convaincu et tu dois te repentir. Et se repentir, ça veut dire prendre une décision ferme. Ça veut dire se retourner à 180 degrés. On parle de repentance, c'est une prédication en soi. Mais je dis juste quelques mots sur la repentance. On parle de repentance sans savoir ce que l'on dit. On passe pas sa vie à se repentir. À moins d'être dans une constante tiédeur et d'être sans arrêt entre la chair et l'esprit. Mais le but de Dieu, c'est de dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». C'est de te dire « Quand tu es convaincu de péché, tu vas prendre une décision ferme. Et si c'est moi, Jésus, qui te l'ordonne, c'est que c'est possible et c'est pas impossible ». Si tu doutes, tu vas être balayé par les flots. Tu es un homme inconstant dans toutes tes voies. Si Dieu t'ordonne de te repentir, ça veut dire stop. Si je sens cette loi, ce corps de péché qui va à des choses et que je suis convaincu par le Saint-Esprit que ce n'est pas juste, eh bien je dis stop de se repentir. Ça ne veut pas dire pardon, pardon et de pleurer. On peut pleurer, mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. Dieu regarde si on a cette vérité en nous de dire stop. Comme il a dit, si ta main est une occasion pour toi de pécher, coupe-la. Si ton œil est pour toi une occasion de pécher, arrache-le. C'est une décision, c'est un acte qu'on doit faire. J'espère que par cette prédication, Dieu permettra à tous ceux qui l'écouteront d'être plus clairs et de se décider pour Christ, de se décider pour le Seigneur de manière sérieuse. Et de ne pas repousser à demain ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Prenez une décision ferme, repentez-vous. C'est un ordre du Seigneur qui nous aime. Repentez-vous, une décision radicale et je tourne. Et, et je ne veux plus rien savoir. Alors on va dire, est-ce que c'est... Oui, c'est possible si Jésus l'a dit. Il est la vérité. Alors on dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Oui, il est le chemin, la vérité et la vie. Repends-toi. Coupe. Tourne à 180 degrés et tu vas voir la délivrance. Tu vas voir que Yehoshua en hébreu, ça veut dire Dieu sauve. Que Dieu va te sauver. Qu'il va te donner la foi, la force pour marcher dans une vie nouvelle qui est possible. Sinon, j'exagère peut-être, frères et sœurs, mais prenons nos Bibles et jetons-les à la poubelle. On dit, c'est pas possible d'être une créature nouvelle, que toute chose soit devenue nouvelle, c'est pas possible. Si c'est pas possible, c'est parce qu'il n'y a pas, un, une conviction de péché, et deux, une vraie repentance. On demande à Dieu d'agir, et c'est nous qui ne le laissons pas agir. Et Dieu pleure. Et Dieu pleure. Alors, si on a pris une décision, on va se mettre à l'œuvre, en particulier de la prière et de la parole de Dieu. Tout ce qu'on partage ce matin, c'est sur la prière, mais vous pouvez prendre toute la trame de ce qu'on va dire avec la parole de Dieu aussi. Parce que la prière et la parole de Dieu, c'est quelque chose aussi que Dieu a uni. Ça va ensemble. Ça va ensemble. La parole de Dieu et la prière se fondent pour que la parole de Dieu devienne prière en nous, se forme en nous, elle forme le Messie en nous et elle nous permet de marcher. Mais de lire juste la Bible comme ça, ce n'est pas ce que Dieu souhaite que l'on fasse. On peut, oui, la lire. Et comme je disais à certaines personnes, on devrait ne pas dormir tant que notre Bible n'est pas soulignée de la Genèse à l'Apocalypse. Et qu'on souligne tout ce qui nous touche, parce qu'on la lit de manière conséquente, vous voyez. Et des fois la Bible, mais ça c'est l'œuvre du diable, ça paraît immensément long à lire, mais vous pouvez facilement lire un évangile chaque jour, dans 4 jours vous aurez déjà lu la moitié du Nouveau Testament, après vous pouvez lire 1 ou 2 lettres par jour, et puis si vous avez soif, en moins de 6 mois la Bible vous l'avez lue, et vous l'avez soulignée, et alors dans votre prière, tous ces versets qui vous ont touchés, vous pouvez revenir dessus. Vous pouvez les dire à haute voix. Laissez l'Esprit les révéler vraiment à vos cœurs pour qu'ils prennent corps, vous voyez. Parce qu'on a un corps de péché qui nous tient captifs. Il faut que le corps nouveau prenne forme, vous voyez. Et comme un bébé a besoin d'être nourri pour grandir, pareillement, c'est ce que dit Pierre, hein, de désirer le lait spirituel non frelaté de la parole de Dieu. Afin qu'on puisse croître pour le salut. Que dit l'apôtre Pierre ? C'est exactement ça. Et donc que cette parole, on la médite en priant pour qu'elle se forme, qu'elle nous fonde, qu'elle forme vraiment ce corps glorieux, cet homme nouveau, cette femme nouvelle, cet enfant de Dieu réconcilié, racheté et réconciliateur pour le monde. Et si on se met à l'œuvre, eh bien, on doit se mettre à l'œuvre malgré, comme le disait David, ce lourd fardeau que ça représente pour la chair, malgré que ce soit pesant pour la nature qui est encore rebelle, vous voyez. Ça ne peut pas se faire comme ça, en un claquement de doigts. C'est vrai, ce n'est pas possible. Et vous savez pourquoi, je crois, c'est qu'on prépare notre éternité. Par contre, ce qui peut se faire en un claquement de doigts et comme ça, c'est la conviction de péché et c'est la repentance. Et ça, ça ne se fait pas sur le long terme. Il faut que l'esprit de vérité vienne en nous et nous transperce. Que ce soit quand on écoute la prédication. Dieu a choisi la prédication pour sauver, c'est ce que dit Paul. La parole de Dieu qui prêche et qui transperce là, au-dedans de nous. Alors que ce soit sur le moment ou lorsqu'on prie, mais vite, parce que le temps presse, comme l'a dit le frère tout à l'heure. Ne remettons pas à demain ce qu'on est appelé à vivre aujourd'hui. Alors que ce soit dans la prédication, dans la prière, il faut que cette vérité nous dévoile et qu'on se rende compte qu'elle est vraie. Et on a tous cette capacité en nous. On l'a, mais parce qu'on se laisse avoir, parce qu'on dort, parce qu'on n'est pas clair. On ne prend pas de décision. On laisse un pas Dieu vraiment nous convaincre de péché. C'est la première chose. Et ensuite, il faut se repentir. Plus vite tu le feras, mieux ce sera. Mais une décision ferme. C'est ce qu'entend Dieu quand il dit « Ne faites pas des vœux que vous ne tiendrez pas. » Alors on n'a pas à être légaliste de dire « Ouh, si j'avais fait un vœu sur ceci, sur cela, Dieu va me punir, je vais aller en enfer. » Jésus a expié nos fautes. Si tu viens vers ton souverain sacrificateur, il fera la purification de ce péché. Mais la Torah insiste tant sur le fait que quand tu dis quelque chose à Dieu, si tu ne le fais pas, ce vœu, c'est quelque chose de grave. Parce que Jésus allait venir et dire « Repentez-vous, prenez une décision de 180 degrés et tenez-la, sinon c'est grave. » Il a dit à ce paralytique-là, « Prends ton grabat et marche. » Il lui a dit « Va et ne pêche plus, il t'arriverait pire encore. Va, je pardonne, mais ne pêche plus. » L'apôtre Jean dit que celui qui pêche, il n'a pas vu et il n'a pas connu Dieu. On est appelé à être des enfants de Dieu et non plus des enfants de Satan. C'est fort ce que je dis, mais c'est Jean qui le dit. On est des enfants de Satan. Ce monde gît au pouvoir du mauvais. Jésus veut nous sauver. Et vous voyez, je crois que cette conviction de péché, cette repentance, c'est vraiment un point de départ capital ou de renouveau capital lorsqu'on est chrétien même depuis des années et qu'on voit qu'on a un cœur déchu. C'est quelque chose qui est décidé une fois, mais qui chaque jour est mis en route, chaque matin est mis en pratique. Parce qu'on sera absolument délivré de cette chair, de cette nature rebelle lorsque le Seigneur reviendra et qui glorifiera notre corps. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous appelle à vivre sur des chaises longues quand tout le monde va en enfer. Dès ici-bas, il veut nous donner les arts. On va dire, oui, les arts, c'est pas grand-chose. C'est qu'on n'est pas assez proche de Dieu. Dieu est tellement glorieux. Son règne, il n'aura pas de fin, frères et sœurs. Alors les arts, c'est quelque chose de grand. L'évangile, c'est quelque chose d'extrêmement puissant que l'homme a minimisé, dilué. Si l'Église va si mal aujourd'hui, c'est qu'on a dilué l'évangile. On a piétiné l'évangile de la gloire de Dieu, frères et sœurs. Et on est parti dans des programmes, dans des choses qui n'ont rien à voir avec le cœur de Dieu et aux Saintes Écritures. On doit se donner les moyens d'une vraie conviction, d'une vraie repentance, si on veut vraiment vivre une vie authentiquement chrétienne. Et pour déboucher aussi, et ça, je veux vous parler positivement aussi, pour déboucher la vraie source d'eau vive que Dieu attend de déboucher. Il faut creuser pour que ça se débouche. Il faut en croire que c'est quand l'eau viendra que tout se débouchera. Non, conviction de péché, Jésus a commencé, première parole de sa prédication, c'était « Repentez-vous ». Et c'est son amour, c'est sa vérité. La vérité vous rendra libre, a dit Jésus. J'aimerais vous lire deux paroles de deux grands hommes de Dieu qui, après avoir préparé cette prédication, sont venus comme la confirmer. Alors, j'avais à cœur de vous les lire. La première, c'est une parole de Bunz, qui est un des plus grands hommes de prière de ces derniers siècles. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, la prière est une œuvre spirituelle. Ce n'est pas quelque chose de charnel, c'est spirituel. Et la nature humaine n'aime pas une œuvre qui, comme celle-là, la met si durement à mort. La nature humaine, elle n'aime pas une œuvre de la prière qui la met si durement à mort. L'homme naturel désire voguer vers les cieux sous une brise favorable et par une mer d'huile. Voyez, c'est ce que je vous disais. Il veut aller vers Dieu. Oui, on veut Dieu. Et c'est toute la question que je vous poserai à la fin. Est-ce que tu veux vraiment Dieu? C'est là la seule question. Est-ce que vraiment tu veux vivre la parole de Dieu? Parce que souvent on dit vouloir Dieu, mais si on creuse, est-ce qu'on le veut vraiment? On veut des sensations, on veut des brises légères. Voyez, on veut voguer vers les cieux comme ça, comme sur un tapis volant, vous voyez. Mais la Bible, c'est du concret, c'est du vrai, c'est pas des contes de fées. L'apôtre Paul l'avait vu, hein, que ça deviendrait des contes de vieilles femmes, parce qu'on n'aura plus l'amour de la vérité, on ne supportera plus la saine doctrine. On voudra qu'on nous dise des choses agréables, dit à Timothée. Que Dieu lève, Père, lève dans ton Église, à travers le monde entier, des prédicateurs qui sauront ô combien mieux que moi toucher les cœurs pour amener ta vérité, Seigneur. Pour amener ton vrai évangile, pour amener cette clarté dont le monde a absolument besoin. Lève des vrais apôtres, Seigneur, qui ramène la prière au cœur de la vie chrétienne pour permettre d'authentiques chrétiens de se lever et de sauver ces masses qui partent sur des cargos vers l'enfer. Seigneur, ramène la vérité au milieu de ton peuple. Libère-le de toute séduction. Ô frères et sœurs, comme je le dis, ce n'est pas que pour nous. C'est d'abord pour nous, mais c'est aussi beaucoup. Et ensuite, ce sera tout lorsque ce sera fait pour nous, pour le monde. Dieu n'a pas donné son Fils parce qu'il a tant aimé le monde pour que tout le monde n'ait pas la vie éternelle. Cette vie éternelle, il veut la donner. Mais on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. La prière est une œuvre humiliante, dit Bunz. Ça nous humilie. Elle abaisse l'orgueil et l'intellect, crucifie la vaine gloire, signe notre banqueroute spirituelle. Quand tu te mets à prier, réellement, tu vas voir ô combien tu es loin de Dieu. On va le voir tout à l'heure. Ô combien il y a des choses qui s'élèvent en toi et qui ne veulent pas Dieu. Si tu pries vraiment, tu vas voir clair. Tu es obligé de prier pour voir clair. La prédication, ça peut être comme un déclencheur, vous voyez. Mais ensuite, ça se passe entre nous et Dieu. Et pour ça, il faut prier. Même si c'est humiliant, il le faut. Ça humilie quoi ? Notre orgueil, notre intellect, notre vieille nature. Tout ce qui n'est pas en communion avec cette vie glorieuse et éternelle. Tout cela est dur à avaler pour la chair et le sang. Il est préférable de ne pas prier que d'avoir à supporter cela. Celui qui s'est vraiment mis à l'œuvre dans une vie de prière, il comprend exactement ce que veut dire l'auteur. Il vaut mieux pas prier. On est plus tranquille quand on ne prie pas. Qu'on soit dans le monde ou qu'on soit des dits chrétiens, Jésus, tu es mort et ressuscité pour moi, alléluia. Vaut mieux pas prier, on est plus tranquille, effectivement. Mais celui qui se met à prier, on va le voir, il va rentrer dans le combat, il va voir que il est impur, il va voir, comme le disait David, qu'il n'y a rien de saint dans sa chair, il va voir que ses iniquités, elles s'élèvent au-dessus de sa tête, il va voir ce lourd fardeau pesante de ses iniquités sur lui. Sinon, on marche à la claire fontaine en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baigné. Il y a tant de chrétiens qui vivent ça, qui parlent même de l'eau pure du Saint-Esprit, comme cette chanson, vous voyez. On a minimisé. On a besoin de revenir si proche de Dieu pour se rendre compte ô combien on a minimisé l'Évangile, ce grand salut de Dieu, préparé depuis des millénaires. Préparé depuis des millénaires. Abraham, notre père, il a tout quitté dans la foi au Seigneur. Et Dieu l'a testé, lui, pour voir s'il avait une vraie repentance. En offrant son fils Isaac, l'enfant de la promesse. Voyez, notre père, comme c'était un vrai, prêt à tuer son fils, mais vous vous imaginez? Et nous, on est là, à marcher à tâtons, incapables d'une vraie repentance, pour marcher clairement avec Dieu, une fois pour toutes. Dieu a préparé son salut. Vous pourrez lire Hébreux 11. Méditez sur Hébreux 11. Devenez fous devant Hébreux 11. Tous ces témoins de la foi qui ne devaient pas arriver sans nous à la perfection. Ces gens dont le monde n'était pas digne. Méditez. On peut passer des heures sur ce seul chapitre d'Hébreux 11. Être ramené vraiment à nous-mêmes. Combien on bafoue cet évangile de la gloire de Dieu. On serait avec Abraham, on serait avec tous ces prophètes, on serait avec tous ces hommes de Dieu. Dans la gloire, alors qu'on est encore mondain, charnel. Il est préférable de ne pas prier que d'avoir à supporter cela. Ainsi, nous en arrivons à l'un des maux les plus criants de ces derniers temps, et peut-être même de tous les temps. Peu ou pas de prière. Comme la prière nous humilie, crucifie cette chair, on en arrive à l'un des maux les plus criants, les plus terribles de notre temps et de tous les temps. Peu ou pas de prière. Et voyez comme il finit sa citation. De ces deux mots, c'est-à-dire peu ou pas, Peu de prière est peut-être pire que pas de prière du tout. Peu de prière est une sorte de feinte, un somnifère pour la conscience, une farce et une illusion. Il vaut mieux à la limite se dire, voilà, moi je prie pas, moi je suis, je crois en un Dieu extérieur, et puis Dieu seul sait, je suis là pour juger personne. Il vaut mieux, voilà, être froid, c'est ce que dit Jésus, soit t'es froid, soit t'es brûlant, mais si t'es tiède, je vais te vomir. Peu ou pas de prière, le pire, c'est peu. Parce que, je vous le répète, c'est quoi? Une sorte de feinte. Hein? Comme j'ai parlé du fromage, il y a l'étiquette, mais ce n'est pas vrai. C'est une feinte. Un somnifère pour la conscience. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Des petites prières où souvent on ne demande que des choses pour nous en plus. On est complètement centré sur nous-mêmes. C'est un somnifère. Une farce et une illusion. La deuxième citation, Richard Newton, qui dit « Je peux écrire ou lire ou converser ou écouter avec un cœur bien disposé, même les choses de Dieu. Je peux écrire, lire, bien écouter. D'accord, et c'est bien. Mais la prière spirituelle, c'est-à-dire seul à seul avec Dieu, la prière spirituelle est plus intime que n'importe laquelle de ces choses. Et plus spirituel est un devoir, plus mon cœur charnel est incliné à s'en éloigner. » Vous avez compris, je vous répète, plus spirituel est un devoir, plus mon cœur charnel est incliné à s'en éloigner. La vraie prière, je veux le dire, il n'y a que les vrais qui la vivent. Parce que c'est pas la joie, c'est la mort pour la résurrection. Mais ça ne commence pas par la joie. Ça commence par la discipline pour arriver à la passion et non pas l'inverse. Méditez, frères et sœurs. Combien de temps on peut passer à être autour d'une table, à manger, à discuter? Combien de temps on peut rester dans le train sans problème, à bouquiner? Que sais-je, aller se balader, à jouer au football, à regarder des films? Et tout à coup, si on disait de passer 4 heures avec Dieu, ça ferait pour certains comme bizarre. 4 heures tout seul, la parole de Dieu et moi, avec Dieu. Tout à coup, ça fait bizarre. Que ce soit pour les enfants ou les adultes. 4 heures avec Dieu. Et pourtant, on peut jouer au foot pendant 4 heures sans problème, en plein soleil. L'homme, il est capable de faire tellement de choses. Pensez aux athlètes. Combien ils ont dû se préparer pour les Jeux Olympiques. L'homme, il est capable de faire tellement de sacrifices, tellement de choses. Il y en a qui font le tour du monde à vélo, à la voile. Mais de passer du temps avec Dieu, il y a peu de chrétiens qui sont capables. C'est le plus grand mot, le plus grand mal de notre temps et de tous les temps. Donc combien Dieu crie parce qu'il a besoin de gens sérieux. Parce que les temps sont sérieux. Parce que les temps sont de plus en plus graves. Donc l'appel à la prière est de plus en plus pressant et grave aussi. Vous voyez, c'est si clair qu'on n'aime pas passer du temps avec Dieu. Pourtant, ça ne coule pas de source, et pourtant c'est si clair. Mais on marche comme ça, vous voyez. On est anesthésié, on dort complètement face à ce que dit l'Écriture d'une authentique vie chrétienne. On est anesthésié, et c'est général dans l'Église. Je ne suis pas un fou là qui sort une doctrine nouvelle. Je suis un tout petit qui veut être tout humble devant son Dieu, qui pleure avant de venir prêcher. C'est si simple, vous savez. Je vais vous lire 2 mots encore de Susanna Wesley, qui est la mère de Charles et John Wesley, qui sont 2 hommes de Dieu qui ont pris les Écritures au sérieux et qui ont balayé toute l'Angleterre d'un réveil. Tous les gens se repentaient, fermaient les bars, avaient vraiment des convictions de péché réelles et des repentances réelles pour servir Dieu. Eh bien, voyez ce qu'elle dit. Parce que, comme on dit, un chat fait un chat et pas autre chose. Eh bien, Susanna Wesley l'a fait John et Charles Wesley. Pourquoi? Regardez, dès sa jeunesse, Susanna se rappelait ces jours-là avec tendresse, particulièrement sa croissance dans le Seigneur. Comment elle a pu grandir dans le Seigneur. Et elle écrivit dans une lettre, elle écrivait à une de ses copines, « Je te dirai quelles règles j'observais quand j'étais jeune, ça va pour les moins jeunes, hein, quand j'étais jeune et trop attaché aux diversions enfantines. Quand je pouvais trop me laisser divertir, aller à côté de ce qui est pourtant, les temps sont tellement graves. Ce qui est la vérité du salut de Jésus-Christ face à nos cœurs, à nos vies, mais à ce monde aussi. » Alors c'est quoi cette règle qu'elle s'était donnée? Ne jamais passer plus de temps dans les simples loisirs, dans une seule journée, que dans des dévotions religieuses personnelles. Voyez. Jeune, elle se disait, ça veut dire quoi ça? Si je joue 2 heures, je suis seul avec Dieu pendant 2 heures. Mais je ne me permettrai pas de jouer 3 heures et d'être seul avec Dieu pendant 2 heures. Le problème aujourd'hui, c'est que petits et grands, des fois, ils jouent 5 heures et puis 0 avec le Seigneur. Comment vous voulez vivre une vie authentiquement chrétienne? C'est impossible. Ce n'est pas pour décourager que je dis ça, c'est pour dire la vérité qui nous rendra libres. Il faut faire face avant toute chose. On a besoin d'un déclic, vous voyez. On a besoin d'un déclic de vérité en nous, que tout à coup, la lumière de Dieu, par la prédication, par la prière, peut-être en réécoutant, tout à coup que, chla, il y a eu un déclic, vous savez, comme la lumière de l'éclair, chla, qu'elle descend des cieux et elle touche sa cible. On a besoin d'un déclic de vérité et reconnaître au fond de nous et que ça ne nous laisse pas tranquille jusqu'à qu'on soit libre, un point c'est tout, vous voyez. On se repent parce qu'on se rend compte qu'on préfère d'autres choses à Dieu. Et ça nous insupporte de telle manière ses préférences à autre chose que celui qui est la vie, la source de la vie, l'éternité. On parlera un peu de l'éternité la prochaine fois. On est aveuglé par rapport à l'éternité. On flâne sans une conscience de l'éternité. C'est de nouveau parce qu'on ne prie pas assez. Ça devrait tellement nous horrifier qu'on devrait prendre une décision, une repentance tellement ferme jusqu'à qu'on soit libre. Vous savez, Jacob, la jambe de l'ange, il ne l'aurait jamais lâchée. Et c'est que par cette persévérance de Jacob. Vous êtes les enfants d'Israël. Vous êtes les enfants du prince de Dieu. Du guerrier de Dieu. Voilà ce que veut dire Israël. Alors qui va se décider à tenir la jambe de Dieu jusqu'à qu'il soit béni? Qui va dire, mais amen, c'est la vérité. En qui la parole de Dieu va réellement percer? Pour dire, je tiendrai ta jambe jusqu'à ce que tu m'aies béni. Et quand bien même vous aurez peut-être des côtes déboîtées et que vous marcherez plus droit selon la chair, vous marcherez droit selon le Seigneur et le Seigneur vous donnera un nom nouveau. Tu ne t'appelleras plus Jacob mais Israël. Tu ne t'appelleras plus Abraham mais Abraham. Le Seigneur ne veut pas faire de nous Abraham qui veut dire père élevé, il veut faire de nous Abraham le père d'une multitude. Il y a de tels désirs dans le cœur de Dieu. Et on ne lui permet pas de les manifester dans le cœur de tant d'âmes qui crient. Parce qu'on n'est pas juste, on n'est pas clair. Donne la clarté à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. On doit le reconnaître humblement, sinon je crois que c'est une farce, l'Église. On joue à la dinette. Faut prier, 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 prier encore. Pour qu'on voit un peu l'état de Dieu. Seigneur. Je ne me moque pas, je dis la vérité quand je dis qu'on joue à la dinette dans l'Église aujourd'hui. Face aux Écritures et pour quiconque prie, c'est la vérité. On se fait illusion si on ne reconnaît pas ces choses sérieusement. Et on ne peut pas bâtir quelque chose de solide. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on bâtisse quelque chose de solide. Quelque chose qui va tenir. Alors après, il y a, comme le dit Paul dans le chapitre 8 aux Romains, il n'y a rien ni personne qui nous pourra nous séparer de cet amour de Dieu manifesté dans notre vie en Jésus-Christ. Sans cesse, on doit être en train de prier. La prière du matin, en particulier, se lever tôt pour mettre en place une plage, et quand bien même le président de la République viendrait taper à notre porte, on ne répondrait pas présent, parce qu'on courbe le genou et on apprend à connaître le Seigneur tous les matins. On a besoin du temps, on a besoin de temps. On en parlera la prochaine fois. De temps avec Dieu. Parce que c'est seulement si on passe du temps, pas une demi-heure, trois quarts d'heure, mais du temps avec Dieu, qu'on va voir clair. Comme je le disais, que vous allez croquer, manger tout ce qu'on est en train de partager là. Parce que si on prie une demi-heure, si on prie peu, c'est une farce. Si on passe deux, trois heures le matin, qu'on se lève tôt, qu'on arrête d'écouter notre chair, mais qu'on se lève, qu'on passe du temps avec Dieu, c'est là qu'on va voir tout ce qui se passe en nous. C'est là qu'après, parce que c'est chaque matin, parce que c'est fidèle, que tout au long du jour, le Saint-Esprit va nous parler, que la parole de Dieu va prendre corps en nous, qu'on va la vivre, qu'on va avoir cette persévérance et qu'on va vraiment être transformé. C'est sûr que si on prie juste un petit peu comme ça, puis qu'on part dans notre journée, on lâche le Seigneur, il ne vit pas en nous. Si on veut vraiment prier sans cesse, tout au long de la journée, eh bien, il faut prendre du temps. Voyez, un Boons, je vous ai dit, j'ai lu qu'un livre de Boons, mais ce livre que j'ai lu de Boons m'a montré que c'était vraiment un grand homme de prière. Il dit, savez-vous, il s'en étonne, savez-vous que nous sommes en train de former une génération de chrétiens qui ne prient pas sans cesse? Ça lui fait bizarre, vous voyez? On est en train de former des chrétiens qui ne vivent pas sans cesse. Ça veut dire qu'ils ne vivent pas Jésus, qu'ils sont déchus. Alors comment ces chrétiens, ils vont sauver ceux qui partent en enfer? Si on prie, c'est pour tenir tout au long de la journée. C'est pour ça qu'on a besoin de temps fidèle avec Dieu. C'est là que Dieu nous parle. Si on se regarde dans le miroir, bon, c'est peut-être pas un bon exemple, parce qu'une demi-heure dans le miroir, je crois que c'est peut-être trop, hein, mais on a besoin d'avoir la lumière sur nous-mêmes pour qu'ensuite, si on sait qu'on sait bien regarder dans le miroir, je ne voudrais pas ne pas être sérieux, mais comprenez ce que je veux dire parce qu'il y a quelque chose de profond derrière. Si quand on se regarde dans le miroir, on sait qu'on a une mèche qui peut descendre et qui ne peut pas faire jolie, puis qu'on sait bien regarder dans le miroir, eh bien la journée, quand on sent la mèche qui est là, on va la remettre, n'est-ce pas? C'est pareil avec Dieu. Si tu passes du temps avec lui, quand tout à coup tu sens que tu le quittes, tu sens, eh bien, il va te ramener, mon fils, ma fille. Tu pars sans moi, je suis le bon berger. Je veux faire ma demeure en toi. Écoute ma voix, tu passes devant, reviens derrière. Son bâton et sa houlette seront vraiment avec nous pour nous ramener sur les sentiers de la vie, pour nous faire aller vers ces verts pâturages. Une citation d'un auteur inconnu que je vous donne rapidement. « La grande chose est peut-être que je ne crois pas avoir reçu quoi que ce soit et que mon âme entretienne une soif spirituelle constante et croissante pour celui qui ne déçoit jamais, pour celui qui étant la plénitude de Dieu pour moi est toujours prêt à se livrer à moi lorsque je me livre à lui et comment, sans crainte d'arriver au bout de sa révélation. » On ne sera jamais arrivé jusqu'à qu'il arrive. Amen. Donc on doit être dans ce constant désir. On doit croître. Celui qui ne croit pas spirituellement, il recule. Celui qui ne grandit pas, il rapetissit. On est fait pour grandir. La vie chrétienne, c'est une dynamique. Vous voyez? Tu rentres dans une dynamique de vie. Ce n'est pas quelque chose qui se passe, c'est quelque chose qui grandit, qui fleurit et qui ne s'arrête pas. C'est un avion, comme l'image que j'avais donnée un jour, qui monte, qui traverse les nuages. Vous avez déjà pris l'avion, vous voyez comment ça fait. On traverse les nuages et tout à coup on arrive. C'est la gloire! C'est ce que Dieu veut. Mais alors pourquoi on va retourner dans ces nuages? Pourquoi on va redescendre? Et parfois même atterrir. Dieu veut que cet avion, il perce. Et il avance dans les galaxies. Et qu'il soit, au retour du Seigneur, éclaté dans l'éternité de Dieu. C'est dans cette optique que la prière doit être considérée, un temps qui ne s'arrête jamais, parce que mon besoin de Christ est constant, parce que je ne suis jamais arrivé au but, parce que la vie chrétienne, c'est Christ en personne, du commencement à la fin. Alors reconnaissons, frères et sœurs, ces voix en nous. La voix du diable qui est acharné, c'est un lion rugissant qui rôde, il veut nous dévorer, il ne veut pas qu'on entende ça, il ne veut pas qu'on mette en pratique. Celui qui prie, il sait que le Seigneur va le réveiller la nuit. Il va tout de suite entendre la chair et le diable dire « Attends, attends, tu vas dormir, tu vas faire cela. Avant de prier, on va avoir des combats. Pendant qu'on prie, on va avoir des combats. Après avoir prié, on va encore avoir des combats. » Quand on se met à l'œuvre, le diable et la chair, vous allez voir que ce n'est pas de la rigolade. Mais je ne vous dis pas ça pour dire que vous allez être vaincus. Parce que non, il a vaincu toutes choses. Jésus a la puissance de nous libérer totalement. Il ne nous a pas appelés à nous repentir. L'apôtre Paul n'a pas reçu cet esprit de vérité pour donner ce vécu aux chrétiens de Colosse, d'Éphèse, comme on a lu tout à l'heure, pour que ce ne soit pas vivable. Vous voyez, c'est possible. C'est possible. Si c'est impossible, ça te paraît impossible à toi, eh bien c'est bien, parce que ce n'est pas par toi-même que tu y arriveras. Ce que Dieu te demande, c'est d'être convaincu de péché, convaincu de ses vérités, de te repentir. Et alors c'est lui qui va prendre le relais. C'est lui qui va, tu vas te laisser, il faut se laisser, comment dirais-je, dépasser par Christ. Il faut le laisser prendre notre vie. C'est la foi qui va faire fondre les montagnes. On a une déchéance du cœur, frères et sœurs, mais Dieu veut rendre ce cœur vivant, Dieu veut rendre ce cœur brûlant. Et pour ça, on est obligé d'avoir une honnêteté, un vrai départ pour bâtir en vérité. Je dirais, pour vivre une vie chrétienne, il faut deux choses vraies, la mort et la résurrection. Mais il y a la mort d'abord. Tu ne pourras pas avoir de résurrection sans la mort. Vous comprenez, retenez ça, l'évangile de Christ, il est si simple. La mort et la résurrection. Il n'y a pas de feinte. C'est le chemin, la vérité et la vie. Et on doit se décider à rentrer dans une vie authentique de prière, de vraie sanctification. On doit se décider, sinon on marchera tout le temps comme ça, à tâtons, en l'air. On sera tiède, on sera pas heureux, on sera pas stable, on sera pas libre. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, aujourd'hui, maintenant, tu peux devenir un grand homme ou une grande femme de prière. Parce qu'un grand homme ou une grande femme de prière, c'est une personne décidée, c'est tout. Retenez ça. Aujourd'hui, on peut l'être. Où qu'on en soit dans notre vie spirituelle, on peut le devenir. Parce qu'un grand homme de prière, une grande femme de Dieu, c'est quelqu'un qui est décidé. Et c'est en priant de manière persévérante que tu apprendras à prier, et pas autrement. C'est en priant et en persévérant qu'on apprendra à prier. Moi, je peux donner des conseils, dire des choses, mais le meilleur conseil à donner, c'est va, ferme ta porte sur toi et prie là ton Père qui est dans le secret. Prends la parole de Dieu, dis-lui, je ne sais pas comment prier, guide-moi. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose entre Dieu et toi. Pas le premier jour, ni le deuxième jour, peut-être même pas au bout d'une semaine. Mais si tu persévères dans la foi, Dieu va te connaître. Tu vas connaître vraiment le Seigneur. Et cette vie nouvelle, elle va prendre corps. Il y a une vraie substance avec laquelle tu vas pouvoir vivre après jour. Et plus tu vas prier, plus tu vas persévérer, plus tu vas grandir. Jusqu'à éclater en gloire dans son éternité. On n'a pas d'autre programme, c'est ça, frères et sœurs. Et c'est de prier qui nous apprend à prier et rien d'autre. Mettons-nous à l'œuvre. J'écrivais, voyez-vous, prie, prie et prie encore. Jeûne et jeûne encore. Je ne veux pas parler du jeûne maintenant, mais le jeûne, c'est quelque chose qui nous aide à être vraiment avec Dieu, à avoir une maîtrise de nous-mêmes et à ne pas se laisser maîtriser, soit par notre corps, soit par les choses extérieures. C'est quelque chose qui nous donne la clarté, le calme, la sérénité, qui nous aide à voir et à être contrôleurs de nos vies et non pas contrôlés. On a besoin de prier, de prier, de prier. C'est le seul moyen. Cesse de te laisser tromper par le mensonge, et vis ce pourquoi tu es fait, ce à quoi tu aspires, en te mettant à l'œuvre, en te mettant à l'œuvre. Ô chrétien, mets-toi à l'œuvre, mets-toi à l'œuvre si tu désires la sainteté, décide de te mettre à l'œuvre. Père de gloire, tu es tout puissant. te prie de nous donner cette grâce de descendre en nous-mêmes, de méditer sur nos voies. Si tu nous dis ces choses, Seigneur, c'est parce que tu nous aimes. C'est parce que tu nous veux vivre pleinement avec toi. C'est parce que comme Jésus l'a prié, tu veux qu'aucun de nous se perde. Seigneur, viens par ton esprit. Parle à nos cœurs. Donne la clarté à nos yeux. Père, on ne veut pas t'offrir des cultes irraisonnables. C'est pourquoi je te prie que puissions chacun maintenant être face à toi. Parce que c'est entre nous et toi que ça se passe. On puisse se décider, voir clair pour être décidé à marcher avec toi, à mettre une vie de prière en place. De nous de prendre des résolutions que nous tiendrons. Donne à chacun de nous maintenant ces instants de te parler, de nous laisser scruter par toi. Parle à nos cœurs, Seigneur. Que nous en soyons, parle à nos cœurs, Seigneur.